Bonjour à tous. J'avais effectivement dit au groupe Louange que pour les déstresser, que j'allais être court et qu'ils prennent leur temps. J'espère que ça va être le cas. Je dis ça parce que je suis rarement conforme à ce qu'on attend de moi. Demandez à ma femme, à mon patron. Et la dernière fois que j'ai parlé ici, c'était à Pâques. J'avais commencé par cette citation que je vous redonne. Les habitudes actives sont renforcées par la répétition, mais les habitudes passives sont affaiblies par la répétition. Plus un homme ressent sans agir, moins il sera capable d'agir un jour et à long terme, moins il sera capable de ressentir. C'est C.S. Lewis qui avait dit ça. Cette citation que je vous ai apportée il y a quelques mois, effectivement, elle est présente dans ma tête. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était à Pâques, ça fait déjà quelques mois, et c'est vrai que je me sens un peu concerné par les habitudes passives. C'était aussi pour moi un challenge de revenir aujourd'hui, parce que je suis dans une phase où le boulot me bouffe un petit peu, comme on dit, pour être cru. Et je sais que Christ est ma vie. Il faudrait quand même que je fasse attention que le boulot ne soit pas ma mort. Je dis ça par rapport à la citation que j'ai dit avant. Je voudrais ce matin aborder un sujet. On a régulièrement, ces derniers mois, dans nos réunions, eu à parler de ce qui s'était passé les derniers mois. On a souvent parlé de ce qui s'était passé. Et moi, ce matin, j'aimerais venir sur un thème pour savoir maintenant, qu'est-ce qu'on ressent ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire ? Je voudrais prier. Père éternel, en ce jour où tu nous as convoqués devant toi, où tu as préparé toutes choses, où tu avais préparé ce jour de toute éternité, ce jour qui est le septième, le jour de repos, mais aussi le jour privilégié pour nous approcher de toi, pour te louer, t'adorer comme nous venons de le faire, et je veux te rendre grâce pour ce que tu as donné pour diriger cela, que tu les bénisses. Et Seigneur, c'est aussi un moment pour s'approcher de toi et pour t'écouter. Et Seigneur, nous voulons te demander maintenant, c'est toi qui parles, que je ne sois que l'instrument de ces moments et que ta parole trouve des cœurs disponibles et des esprits libérés. Amen. La dernière fois que j'ai parlé, j'avais à cœur de venir une fois, parce qu'on parle de la croix, mais de venir une fois sur le, en donnant un peu des détails sur ce qu'était réellement la croix et les souffrances extrêmes de la mort du Christ. L'humiliation, les coups, la couronne d'épines, la flagellation qui, à elle seule, aurait pu tuer notre Seigneur comme elle pouvait tuer tous ceux qui y passaient. C'est pour ça que les Juifs avaient limité le nombre de coups à 40, moins 1, au cas où le dernier serait fatal. Quelque chose de terrible, puis la croix à porter sur une distance, pas très longue, mais avec un poids sur les épaules, avec tout ce qui avait été fait avant, les muscles déjà détruits par la flagellation, puis porter en croix, cloué, crucifié, souffert des souffrances extraordinaires que j'avais essayé d'expliquer, de l'asphyxie et de la difficulté à respirer et à parler, et de quoi était mort notre Seigneur. C'est une question qui est posée. Si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup d'essais, de réponses. Mais on sait que ce qui a tué notre Seigneur, c'est le péché qu'il a porté. C'est le péché, c'est à cause du péché qu'il est mort. Et la question que j'avais posée alors à ce moment-là, c'était « Notre Seigneur est mort à cause du péché, mais il est mort pour moi. » C'est une réponse à laquelle nous devons tous à répondre. Est-ce qu'il est mort à cause de moi ? parce que je ne l'ai pas reconnu comme tel, ou est-ce qu'il est mort pour moi, parce que je comprends qu'à cause du péché, il est mort pour moi? C'était la question que j'avais posée, et le but, c'était de nous emmener dans ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, dans les derniers instants, au moment où il allait devenir l'agneau immolé, où il allait devenir en même temps ce sacrifice expiatoire, cet agneau sans tache et sans défaut, et aussi en même temps le sacrificateur pour l'éternité, à cet instant précis, quelques instants avant, le brigand s'est adressé à lui. Il lui a demandé pardon. Et Jésus, avant même d'avoir accompli son œuvre rédemptrice qui allait suivre, l'a ajouté à son corps, l'a ajouté à l'Église. Bien sûr, le brigand est mort et il lui a dit que ces jours même, il serait au ciel avec lui. Mais par les faits, si ce brigand n'était pas mort à ce moment-là, il aurait été ajouté au corps du Christ. Et je voudrais lire un texte dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 9 et 10. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Un verset que j'avais lu aussi la dernière fois, dans Romains 10, « Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi, que dit-elle donc? Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de foi que nous proclamons. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'avais évoqué dans ce message la dernière fois une question à laquelle je voudrais vraiment répondre aujourd'hui, qui était aussi une citation d'un père de l'Église, Ignace d'Antioche, au IIe siècle, par rapport à ce que Jésus vient d'exposer, de ce que Jésus a fait pour nous. Et la question était, avec quoi le payerons-nous de retour? Quel fruit lui offrirons-nous qui soit digne de lui? Combien grande est envers lui notre dette? Et il répondait, vous êtes les pierres du temple du Père, préparées pour la construction de Dieu le Père, élevées jusqu'en haut par la machine de Jésus-Christ qui est la croix, vous servant comme câble de l'Esprit Saint. Votre foi vous tire en haut, et la charité est le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, porteurs de Dieu et porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des objets sacrés ornés en tout des préceptes de Jésus-Christ. Cette image qui est donnée, j'aimerais l'amener ce matin à la plus belle image pour moi qui est contenue dans les épîtres, l'image du corps, le corps de Christ, l'Église. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions ensemble dans Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Le titre, c'est l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. J'aime cette image du corps. Qu'est-ce qui nous parle plus que ce que nous sommes, que ce que nous connaissons, cette image du corps, pour illustrer les membres de ce corps, les membres de l'Église, les membres du corps de Christ. Ce qui est important, et c'est pour ça que je citais le fait que Christ avait ajouté le brigand au corps, à son corps, c'est que nous ne choisissons pas notre place dans ce corps. C'est Christ qui l'a choisi. C'est Christ qui nous place. Nous ne choisissons pas non plus la place de celui qui est le membre d'à côté, de celui auquel nous sommes reliés. Nous ne pouvons pas choisir ce membre-là, pas plus que les autres. C'est Christ qui choisit. C'est Christ qui décide. C'est Christ qui a ajouté ses membres et qui les a placés là. Une explication claire. Est-ce que la jambe peut dire « je ne veux pas ce pied, je préfère la main » ou vice-versa ? Nous finirions par marcher sur les mains. C'est possible. C'est possible. Mais on ne va pas très vite et pas très loin. Et puis, quand on marche sur les mains, vous pouvez essayer. Pour garder l'équilibre, on est obligé de balancer le corps d'un côté et de l'autre. Nous ne pouvons pas choisir, nous n'avons pas non plus pour rôle de juger le membre qui est à côté, nous n'avons pas non plus pour rôle de voir comment il fonctionne, nous avons pour rôle d'être, d'avoir l'utilité du membre que nous sommes. et nous avons pour rôle de prendre soin des autres membres. Voilà ce qui est écrit dans ces textes, dans celui-là et dans d'autres. Nous devons prendre notre place et jouer notre rôle. Et si dans notre Église, comme dans toutes les Églises, il y a des membres qui ont des responsabilités, il n'en est pas moins que ces membres sont des membres comme les autres. Car le chef du corps, c'est la tête, c'est Christ. Et il y a deux aspects à cet exemple. C'est que, d'abord, nous ne devons pas voir ces membres comme étant ceux qui doivent tout résoudre et tout gérer et tout penser à notre place. Ils sont des membres comme nous, ils ont leur rôle, nous avons le nôtre. Et le deuxième aspect, c'est que ces membres-là, et ils le savent, et c'est une grande responsabilité à laquelle nous devons penser, doivent être comme le corps, comme chacun de nos membres, sont dirigés par notre cerveau, par la tête et par la moelle qui est l'esprit. Ces membres-là doivent aussi être dirigés par la tête. Et lorsque la main doit aller tirer l'oreille ou mettre le doigt sur la bouche ou gratter le nez, si elle n'est pas dirigée par l'esprit et par la tête, elle risque de se mettre le doigt dans l'œil. Je ne dis pas ça pour... C'est un exemple parlant qui effectivement nous fait sourire, mais c'est tellement vrai. Et nous avons tous, là encore, notre responsabilité à l'intérieur de ce corps. Nous avons toutes notre responsabilité, non pas pour déplacer les autres membres, non pas pour les rendre conformes à ce que nous voudrions, mais pour que nous soyons avant toute chose, chacun, encore une fois, que nous ayons chacun la fonction qui nous a été attribuée, qui permettra aux membres suivants ou avant d'avoir sa fonction, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque membre a son importance. Même le plus petit des orteils a une importance capitale pour l'équilibre du corps. J'ai un employé au travail qui a eu un accident, il s'est fait rouler dessus par une machine, il a été amputé d'un doigt de pied et demi, le petit et celui d'à côté, et on a dû lui faire construire une prothèse pour qu'il puisse retrouver un bon équilibre pour marcher et avancer. Chacun des membres a son importance vitale dans le corps, dans l'Église, dans le corps du Christ. Alors heureusement, on ne peut pas marcher sur la tête, parce que la tête c'est Christ. Au verset 15, « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » Et le début du verset suivant, « De lui, tout le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » Oui, les anciens nous ont parlé tout dernièrement de l'esprit. Ils ont exposé de façon synthétique mais claire, compréhensible, ce qu'était l'esprit et quel était son rôle. Et nous le voyons encore dans ce verset, que ce n'est pas simplement une grande définition, ce n'est pas simplement un message magistral qu'ils ont voulu apporter, mais c'est l'importance capitale de cet esprit qui est dans l'image du corps, le sang et la moelle qui permet à chaque membre de fonctionner. Lorsque la moelle est coupée, suivant à quel endroit elle est coupée, ou lorsque le sang ne circule plus, les membres sont paralysés, ou ils sont morts. Encore une fois, l'image de ce corps est importante pour comprendre cela. Oui, chacun a à jouer son rôle, mais chacun doit être relié et vivifié par l'esprit pour être alimenté et pour permettre au corps dans son ensemble de fonctionner. C'est une responsabilité individuelle, mais dès l'instant que nous sommes raccrochés à un corps, c'est une responsabilité collective. Et chacun d'entre nous est responsable du fonctionnement du reste du corps. Nous avons parlé depuis quelques mois déjà d'une vision d'église, d'avoir une vision, de savoir où nous voulions aller. D'un objectif. Je pense que nous avons besoin d'un objectif. Et je crois que nous n'avons besoin que d'un seul objectif. Et pour moi, cet objectif, il est dans les versets 12 et suivants. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mon opinion, et c'est le mien, mais je vous l'apporte ce matin en toute honnêteté, c'est que notre objectif, la vision de l'Église, l'objectif de l'Église, c'est ça. C'est le seul objectif important. Pourquoi le seul ? Parce que de celui-là, tous les autres découleront forcément. Tous les autres en dépendront forcément. Et pourquoi, lorsque nous avons de la peine à faire fonctionner un membre ou le corps, à faire fonctionner cet objectif, nous avons tendance à vouloir en trouver d'autres? Je ne pense pas que nous les atteindrons si celui-là n'est pas accompli. Cet objectif-là est le passage obligé pour que tous les autres en découlent. Et ils en découleront forcément, puisque le chef c'est Christ, puisque le lien qui nous unit, les jointures dont il est parlé au verset 15, c'est l'esprit qui nous a été donné. Voilà pour moi l'objectif, la vision de l'Église, de notre Église. Et pour quel but ? Et pour quel but ? Nous l'avons au chapitre 5. Dans un texte qui est avant tout mis en place par Paul pour parler de la vie dans la famille chrétienne, mais qui a un lien très très important aussi avec l'Église, et je vais vous lire tous les versets, ça commence, « Marie, aimez chacun vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » Et voilà notre but. Pour la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà le but. Notre objectif, au chapitre suivant, pour ce but-là. Et c'est pour ça que je disais que tout en découlera, parce que c'est ce but, c'est Christ qui nous permet de l'atteindre. C'est lui qui nous permet de l'atteindre, puisqu'il nous a sanctifiés après nous avoir purifiés par l'eau et la parole. C'est lui qui nous fera paraître devant lui, saint et sans défaut. Et dans ce texte qu'on peut utiliser pour le mari et la femme, Au verset 29, il est dit « Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. » Parce que nous sommes membres de son corps. Et j'aime bien le verset 32. On est parti sur un texte pour la famille chrétienne, le mari et la femme. Et au verset 32, il est dit « Ce mystère est grand. Je dis cela, non pas par rapport au mari et à la femme, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, ce mystère est grand. Oui, nous avons, j'ai, comme n'importe lequel d'entre nous, de la difficulté à intégrer ce fonctionnement et à croire que cela est possible. Je vois nos mines un petit peu renfrognées en se disant, oui, mais théorie. Ce chapitre d'Éphésiens, c'est un chapitre dans un livre qui est un de mes préférés. C'est un chapitre tellement important et tellement capital. Et je me pose des fois la question, est-ce que nous croyons que Christ veut faire et peut faire cela pour chaque membre de l'Église et pour l'Église et pour le corps ? Je vous regarde tous dans les yeux. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous n'avons pas besoin, certaines fois, comme Pierre et Jean, de courir au tombeau pour vérifier qu'il est vivant ? Je voudrais m'arrêter sur cette question. Et pour conclure, deux versets, Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, à lui la gloire. Dans l'Église, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous voulons prier. Si quelqu'un se sent appelé à prier, qu'il le fasse librement. Oui, Seigneur Jésus, comment te dire ce que nous ressentons? Nous savons que nous n'en avons pas besoin parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées par ton esprit. Mais Seigneur, je voudrais ce matin venir vers toi pour te dire combien je suis en désarroi par rapport à ma difficulté à m'intégrer dans ce corps, par rapport à ma difficulté à respecter les membres qui sont autour de moi, par rapport à ma difficulté à jouer mon rôle pour que ce corps soit en marche, par rapport à ma difficulté pour soutenir les autres membres, à les aimer. Seigneur, je veux placer devant toi ce matin ce qui, pour moi, est ma compréhension de notre objectif, que ce corps puisse être uni par ton esprit, par ces jointures parfaites que tu mets, Seigneur, pour que ton esprit circule, et que pour que nous puissions chacun trouver notre place, et cela pour le service de l'édification du corps, afin que nous devenions à ta stature parfaite, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui fais cela, nous savons que toi seul peux faire cela, mais Seigneur, je veux croire du fond de mon cœur et proclamer que toi tu peux faire cela, que toi tu veux faire cela, et Seigneur, c'est ma prière ce matin. Je t'appelle à mon secours, un autre secours, pour que tu viennes agir puissamment dans nos vies individuelles à chacun et dans ce corps, pour que nous soyons conformes à ta parole. Par ton nom précieux de Jésus. Amen.
Bonjour. Je vous partage les annonces de la semaine qui sont toutes petites puisque nous nous retrouvons ici dimanche prochain pour le culte. Donc culte à 10h30 dimanche prochain. La semaine d'après, par contre, sera plus remplie puisqu'il y aura le club d'enfants et Rebecca va nous faire une annonce à ce sujet.
Ça y est, dans une semaine, on démarre. On est super heureux. Moi, je suis déjà excitée de commencer ce premier camp tous ensemble. On a 22 enfants inscrits. On est très reconnaissant de commencer avec un petit groupe pour se mettre en route. Ça va être parfait. Par contre, si cette semaine, vous avez encore des enfants qui aimeraient nous rejoindre, donc c'est de 7 à 12 ans, n'hésitez pas à nous appeler. On prend encore des enfants. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci de continuer de prier pour ces 22 enfants qui vont venir, qu'ils puissent apprendre à mieux connaître notre Seigneur. Il y a des enfants qui ne le connaissent pas du tout, qui vont venir dans ce camp. Il y a deux enfants que j'aimerais mettre sur votre cœur qui s'appellent Kylian et Lenny. Ils viennent juste de perdre leur maman. Ces enfants, le papa a décidé d'abord de les retirer et puis... nous avons fait une chaîne de prières et ces enfants vont venir quand même, alors que nous sachions aussi les accueillir, leur donner ce dont ils ont besoin. Donc Kylian et Lenny, merci de prier pour eux. Alors j'ai besoin encore de 3 choses. Vendredi, donc ça sera le dernier jour, le 17 août, on va faire un apéritif pour passer du temps avec les parents. Alors, ça serait gentil si quelques personnes seraient prêtes à préparer des choses pour cet apéritif. Alors, merci de dire à Lydie si vous apportez quelque chose. Ensuite, il nous manque un photographe. Alors, lundi, on a une photographe qui sera là pour toute la journée, mais pour tout le reste de la semaine, on n'a pas quelqu'un de précis. Donc, si vous êtes libre du 14 au 17, merci de venir me voir. Et à la fin de la semaine, on aimerait faire un petit montage aussi pour montrer aux parents. Et puis encore autre chose, on a un atelier, si quelqu'un se sent inspiré ou que Dieu lui a donné ce don, on aimerait faire une chorégraphie. Donc tous les jours de 11h30 à midi, ah, je vois déjà des mains là comme ça, voilà, alors j'attends ton téléphone, si tu es libre, voilà, donc c'est de 11h30 à midi. Pour préparer une chorégraphie pour montrer aussi aux parents à la fin. Oui, Emmanuel, qu'est-ce qu'on a oublié?
En fait, il y a beaucoup de gens dans l'église qui s'étaient inscrits pour prier pour ce camp. Et jeudi soir, on va passer un moment dans la prière après le camp pour remercier le Seigneur de nous avoir accompagnés pendant cette semaine, pour s'encourager les uns les autres. Donc les gens qui ont intercédé pendant le camp, qui avaient à cœur, souvent c'est des personnes des fois plus âgées, qui se sentaient pas participer au camp la journée, ben vous serez les bienvenus.
Mais à 17h30.
À 17h30, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, ça sera ici à 17h30, ça durera 3 quarts d'heure.
À quel jour le jeudi?
Pendant le camp.
Pendant le camp,
16 août. Voilà, merci. Oui, alors tout le monde est... Ouais, on peut le redire, voilà, tout le monde normalement est informé, mais dimanche prochain, donc tous ceux qui se sont engagés pour le camp, après le culte, on reste tous ensemble, on pique-nique tous ensemble, et à 14h, ça commence vraiment toute la formation, tout ce qu'on doit mettre en place. Donc tous ceux qui sont mis pour s'engager dans ce camp devraient être là. Merci.
Merci, et j'aimerais rajouter aussi de... Prenons du temps pour prier pour ce camp. C'est vrai que c'est important comme moment pour ces enfants de connaître l'Évangile et vraiment prenons du temps pour les présenter à notre Seigneur et que ce soit lui qui dirige ce mini-camp, ce club d'enfants, que ce soit lui par son esprit qui puisse agir dans les cœurs. Nous avons appris aussi le décès de la maman de Jean-Michel. Et c'est vrai, Jean-Michel, nous voulons t'apporter toute notre sympathie au nom de l'Église. Nous pensons à toi, nous pensons à vous. Que Dieu vous accompagne dans ces moments de séparation, de deuil, qu'il vous renouvelle, qu'il vous fortifie, qu'il soit vraiment chaque jour auprès de vous. C'est vrai que nous voulons vraiment penser à vous et prier pour vous aussi. Laz m'a appris qu'il allait partir. Laz a rejoint l'Église pendant quelques semaines puisqu'il fait un stage au CERN. Son stage arrive au bout, donc il va partir jeudi prochain. C'est vrai que nous voulons penser à lui aussi pour la suite de son chemin. Donc il repart à Madagascar pour une semaine et puis ensuite il repart pour 3 ans aux États-Unis. Et c'est vrai que nous voulons prier pour toi, que Dieu t'accompagne, qu'il précède ton chemin, ta route, qu'il garde ton départ et ton arrivée aussi. Je vous invite à lire aussi pour clore notre culte, oui. Alors bravo, c'est vrai, belle surprise. Que Dieu t'accompagne, donc que Dieu vous accompagne en couple. Pour terminer ce culte, je vous invite à vous lever. Nous allons lire les 2 derniers versets de l'Épître aux Éphésiens. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.